VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Il est 9h à Washington, 13h à Bamako. En RDC, 5 tués dans un nouveau massacre hier soir attribué aux rebelles ougandais des ADF. L'attaque a eu lieu près de Beni, dans le nord Kivu. À Beni même, l'opération Ville Morte Illimitée continue à l'appel de la société civile qui accuse Kinshasa de ne s'être pas suffisamment engagé contre les tueries répétées que commettent les ADF dans la province. Le point avec Eddie Isango.
Les mots d'ordre ont bien été suivis à Beni pour la toute première journée de la Ville Morte Illimitée. Les leaders de la société civile annoncent que leur action se poursuivra jusqu'à ce que le gouvernement fasse quelque chose pour arrêter les massacres répétés dont la population de cette partie de l'est du pays est l'objet de la part des combattants du mouvement islamiste ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF. Kizito Binhang de la SADO à Beni indique que la société civile est révoltée de ce que rien n'est changé depuis la promesse du président Joseph Kabila qui s'était rendu dans la zone l'année dernière après une série de massacres, lesquels massacres n'ont jamais cessé depuis. De son côté, le gouvernement attend de juger les leaders des ADF arrêtés en Tanzanie la semaine dernière. Selon Kinshasa, Jamil Mukulu, qui dirige les ADF depuis quelques temps, doit être extradé à Kinshasa plutôt qu'à Kampala. Il a commis plus de crimes en RDC que dans son pays d'origine, a indiqué le ministre des Affaires étrangères congolais, selon qui une demande d'extradition a été formellement adressée à Dar es Salaam.
Eddie Isango, il faut une meilleure coordination des armées de la région dans la lutte contre Boko Haram. C'est ce qu'a réclamé à nouveau le président tchadien Idriss Déby, qui s'est rendu hier au Nigeria pour rencontrer le président sortant Goodluck Jonathan et son successeur Muhammadu Buhari. Si nous devons continuer la lutte encore et attraper le chef du groupe islamiste Abubakar Shekau, il faudra que les armées travaillent ensemble, a souligné Idriss Déby à Abuja. Moussa Dadis Camara, candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain en Guinée. L'ex-chef de la junte guinéenne a fait cette annonce en personne hier à Ouagadougou, Burkina Faso, où il vit en exil depuis 5 ans. Il justifie sa décision par sa volonté de mettre fin aux souffrances de ses compatriotes.
Je m'engage en politique pour accélérer l'atteinte de l'objectif principal de notre mission commune, qui est la conquête par la démocratie à la magistrature suprême en Guinée, afin d'apporter aux Guinéens le bien-être social. Les souffrances des Guinéens n'ont que trop duré, et il est temps d'aller affronter par tous les moyens légaux les obstacles qui assaillent sans cesse le quotidien des populations marquées de notre chère Guinée. Je vous rappelle qu'un bon leader politique n'a pas d'ethnie ni de religion. Donc, les portes du Parti des Forces Patriotiques pour la Démocratie et le Développement restent grandement ouvertes à toutes les communautés et religions qui sont les bienvenues pour faire de notre parti un véritable parti national sans étiquette communautaire ni religieuse.
Voilà, c'était Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte guinéenne, propos recueilli par notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo. Moussa Dadis Camara, candidat, écoutons ses réactions à Conakry.
Pour moi, c'est bien parce que c'est un Guinéen comme nous tous. Je pense que ouais, il peut faire l'affaire aussi.
Il a le droit de se présenter en tant que Guinéen, vu les antécédents du CNDD, vu tout ce qui est en cours, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va encombrer le pouvoir en place?
Moi, personnellement, pendant sa gouvernance, j'ai compris qu'il a été pour moi le premier président qui a gouverné honnêtement et qui peut faire mieux.
Ta candidature est la bienvenue. Elle se présente aujourd'hui. Moi, je vote pour lui parce que j'ai décidé de ne pas voter pour les autres là.
Voilà des propos recueillis par notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Mali, 8 militaires tués lundi dans le nord-ouest du pays dans une embuscade tendue par la rébellion à dominante Touareg, non loin de Tombouctou, Des précisions avec Yaya Tandina, journaliste à l'ORTM, la radio nationale malienne.
C'est une mission des FAMA. Les FAMA, c'est les forces armées maliennes de sécurité, venant de Goundam, une équipe de relève qui devrait rallier Tombouctou et qui a été victime à 25 km au côté ouest de Tombouctou d'une embuscade. Juste quand le convoi passait, une roquette anti-char a été tirée et automatiquement, les hommes étaient piégés. Ceci étant, les dégâts ont été nombreux. Nous avons remarqué la disparition de deux véhicules. Un véhicule sur le terrain brûlé. Ensuite, il y a eu 8 morts, 11 blessés. Et l'armée malienne, de son côté, a fait aussi un prisonnier vivant que j'ai pu interviewer, qui me dit qu'il s'appelle Mohamed Aguel Mouloud. Tombouctou est en deuil du moment où la plupart de ces jeunes soldats qui sont morts sur le terrain sont des ressortissants de la région de Tombouctou.
Voilà, c'était le journaliste malien Yaya Tandina, joint à Tombouctou. Et le chef de la MINUSMA, Mongi Hamdi, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, a condamné l'attaque contre le convoi en la qualifiant de violation de l'accord de cessez-le-feu de 2014 et des déclarations d'Alger de cessation des hostilités. Crise centrafricaine. Dans un communiqué publié lundi, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, félicite la Centrafrique pour l'adoption du pacte républicain pour la paix, la réconciliation et la reconstruction suite à la tenue du Forum national de Bangui du 4 au 11 mai 2015, un document qui devrait permettre au pays de prendre un nouveau départ. Les États-Unis aussi applaudissent les Centrafricains pour l'issue heureuse du forum de Bangui, selon Jeff Ratke, porte-parole du département d'État américain.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Voilà la page internationale. Au moins 16 personnes ont été tuées dans le nouveau séisme d'une magnitude de 7,3 qui a touché le Népal ce mardi, selon un bilan de l'Agence de gestion des catastrophes népalaises cité par l'AFP. Ce tremblement de terre a également blessé 335 personnes, selon un décompte de l'agence rendu public sur Twitter, moins de 3 semaines après le séisme ayant tué plus de 8000 personnes. Le président français François Hollande a exhorté les États-Unis à mettre fin à son embargo commercial contre Cuba, en vigueur depuis plus de 5 décennies. Un appel lancé hier à La Havane. M. Hollande est le premier leader occidental à visiter l'île antillaise depuis que le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont annoncé en décembre leur intention de mettre fin à plus de 5 décennies de rupture diplomatique entre La Havane et Washington. Prochaine étape du président français aujourd'hui aux Antilles, Haïti. Des précisions sur ce programme de sa visite avec Félix Yepasis Zembrou.
Le président français François Hollande va signer ce mardi, lors d'une visite officielle en Haïti, plusieurs accords renforçant les échanges commerciaux, énergétiques et éducatifs entre les deux pays, dont un sur l'exportation de bananes biologiques. Suite à la mobilisation d'agriculteurs regroupés en coopérative dans le nord du pays, Haïti va commencer à exporter des bananes biologiques vers le marché européen. Cet accord commercial sera entériné par les présidents français et haïtien Michel Martelly mardi au Palais national à Port-au-Prince.
Le secrétaire d'État américain John Kerry doit rencontrer ce mardi le président russe Vladimir Poutine dans la ville balnéaire de Sotchi. C'est la toute première visite de Kerry en Russie depuis la détérioration des relations entre les deux pays au sujet des conflits en Ukraine et en Syrie. Et en Syrie, le département d'État annonce que Poutine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et Kerry lui-même discuteront des questions bilatérales et régionales. Et selon une porte-parole du département d'État, ces pourparlers porteront également sur les négociations sur le nucléaire iranien. Et puis ici aux États-Unis, le bilan s'alourdit suite aux violentes tempêtes et tornades qui ont frappé en particulier le sud du pays le week-end dernier. Des précisions avec Chérubin Dorsil.
En tout, les autorités ont fait état de 70 tornades dans le Midwest et la région des Grandes Plaines. Le bilan établi jusqu'à hier soir était de 5 morts, 8 personnes portées disparues et plusieurs dizaines de blessés. La zone la plus touchée semble avoir été Van, une localité du Texas ne comptant que 2600 habitants. Un couple y a été retrouvé mort dans un parc de stationnement pour maisons mobiles. Selon le Dallas Morning News, les 8 personnes qui sont portées disparues se trouvaient au même endroit. Selon le chef des pompiers, cité par l'AFP, environ 26 personnes ont été identifiées et transportées dans les hôpitaux des environs. 30% des propriétés de la municipalité avaient subi des dégâts, a-t-il ajouté. Un autre couple a été tué à Nashville, dans l'Arkansas. Des tempêtes ont également frappé le Dakota du Sud et l'Iowa. Le pire, c'est que la saison des tornades ne fait que commencer et la météo a annoncé de nouvelles tempêtes pour les prochains jours.
Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information est en continu sur voafrique.com. Le prochain bulletin, c'est dans moins d'une heure.
Soyez au cœur de l'info.